c'est correct. Open mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Est-ce que le boulement, est-ce que vous manque Audrey Pinchot? Est-ce que vous manque Audrey? Est-ce que vous manque la petite fille de l'open mic? Est-ce que vous manque la petite fille du retour? J'imagine que oui. Mais hier, elle m'a fait suer. Même si Audrey n'est pas là, nous, on a un canal de communication par Messenger où on envoie tous nos sujets. Puis ben, je continue d'envoyer mes sujets sur ce canal-là. Elle me dit, moi, je prends un verre de vin sur le bord de la plage. Elle me manque pas de temps. Non, elle me manque pas de temps. Mais d'ici là, quelqu'un qui est là pour compenser, bien compenser, tiens.
Pascal Cévé. Je suis comme, elle nous manque beaucoup.
Oui.
Mais quelqu'un qui est là pour compenser, je suis comme, ben j'espère
que... Tu sais, Pascal, je te regarde et Audrey me manque vraiment.
C'est ça, exactement. Je pense à ça avec toi. Est-ce que vous manque pour vrai? Ouais. Je sais, vous pleurez, c'est douloureux, c'est dur pour vos
oreilles. Bon matin! Ouais, c'est ça.
Salut!
Tu sais, c'est comme tu es avec un nouveau chum ou une nouvelle blonde, puis là, ta belle-mère dit, ouais, moi, elle me manque Sandrine.
Ben voyons donc.
Ouais, oh, ouais.
Voir qu'un beau-parent peut dire ça.
Il y en a qui sont de même.
Blonde, nouveau parent.
Oui, parce que quand tu te sépares, t'as le deuil de la séparation amoureuse de ton conjoint, conjointe, mais t'as le deuil de la famille aussi que t'as appris à connaître.
Ça, c'est difficile.
Parce que tu deviens un membre de leur famille. Mm-hmm. Puis tant pour toi que pour eux.
Ou pour les amis.
Ce qui fait en sorte que des fois, le deuil pour la belle-mère n'est pas encore terminé. Fait qu'elle voit la petite nouvelle rentrée dans la maison, ça doit pas être évident pour les belles-mères.
Mais elle peut en parler à son conjoint, la belle-mère.
Oui, mais tu sais...
Mais tu sais, devant la nouvelle... En tout cas, nous, ça se passerait jamais de même dans ma famille. Je pourrais pas
croire. Oh non, vous autres. Hein?
Jamais.
On sait bien.
Non, mais
c'est différent des autres.
Non, mais le respect, en tout cas, c'est une valeur fondamentale. Mais je veux dire, même s'il détestait mon prochain chum, puis il comparait au gars qui a été dans ma vie pendant 10 ans, qui est une super personne, là, jamais il ferait qu'on s'ennuie de... Voyons, jamais. Par contre, il y avait une règle. S'ils ont apprécié nos conjoints, dans ce cas-ci, on est tous hétérosexuels puis on est toutes des filles à la maison, là. Mon père a toujours répété, et maman, c'est la même chose, là, si jamais c'est une bonne personne, je l'apprécie, je vais quand même prendre des nouvelles par la suite. Ça, vous m'empêcherez pas.
Mais ça, c'est tout à fait normal.
Ben, je trouve ça tellement... C'est tellement sain.
Le problème, c'est que parfois, ça peut être malsain parce que l'autre n'accepte pas nécessairement la séparation, mais il veut rester proche de tes parents. Tu sais, c'est comme un peu weird, ça aussi.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, il veut rester comme encore dans l'entourage de tes parents, mais toi, c'est fini, c'est terminé, t'es passé à d'autres choses, puis lui, il veut être là, tu sais.
Ben, moi, ça m'a pas dérangé.
Non? OK.
Mettons, celui qui...
Parce que ça a bien terminé.
Ben, je veux dire, ça a terminé difficile, là. On n'est plus ensemble pour des raisons qui étaient à la fin. Je veux pas entrer dans sa vie privée. Mais il y a eu un problème de santé mentale qui est pas extrême, qui est une surcharge, mettons, une surcharge de travail. Okay. Mais...
Je veux pas rentrer dans sa vie privée, mais je comprends.
Non, mais c'est parce que c'est pas de la schizophrénie ou autre. Okay. Puis, tu sais, je veux dire, les deux dernières années, avant qu'il y ait diagnostic de genre anxiété de performance puis tout, qui a mené à X, Y, Z, puis c'est correct, il en a parlé, puis j'ai déjà dit, à un moment donné, ça va venir en nombre, ça fait au moins 4 ans qu'on n'est plus ensemble. Mais ça a été dur. Avant qu'il y ait un diagnostic, moi, je pouvais supposer que... Mais les comportements changeaient, là.
OK.
La personne avec qui j'ai été pendant des années n'était plus en rien celle que j'ai connue. C'est fascinant, là, tu te dis, attends, là. J'ai dit, es-tu devenu comme ça? T'as-tu changé? T'es-tu rendu cette personne-là où tu vis un obstacle de santé mentale? Mais là, en même temps, je peux pas poser un diagnostic tant qu'il n'est pas allé consulter une psychologue. Je ne suis pas psychologue et je suis que sa conjointe. Fait qu'en plus, j'ai un biais de proximité. Fait que j'ai pas de recul sur ce que je vis. Puis en plus, j'ai mes émotions là-dedans. Hey, c'était souffrant, là.
Mais c'est une joke au départ, là. Mais je comprends que tu veux rentrer dedans.
Non, mais c'est parce que ça, tu sais, parce que là, t'as dit, ça a bien fini. Non.
Ouais.
Mais par... je savais que c'était étrange, puis je savais qu'il m'avait bien traité pendant des années.
Ouais, c'est ça.
Donc, la base de la personne, pour moi, restait la même. Okay.
Bon, c'est un cas particulier, mais ce que
toi,
je veux dire, c'est...
la mère de tes enfants qui parle, à tes parents,
aucun
à tes
problème.
Amis, ben c'est ça.
C'est ça. Mais si, admettons, je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui a trompé, tu sais, quelqu'un qui a trompé l'autre, puis il accepte pas la séparation, puis il veut rester dans l'entourage de la famille et tout ça peut être...
Ouais, mais je pense que la famille veut pas.
Je veux me sortir de cette situation dans laquelle je voulais pas me mettre. Donc, on va parler d'un autre sujet. On va revenir un peu sur ce qu'on a jasé hier dans l'actualité. En fait, ça a pris de la place épouvantablement dans l'actualité hier. C'est Marchand qui s'en était pris à une citoyenne au conseil de ville de la ville de Québec. Une citoyenne qui imitait Pierre-Luc Lachance, mais qui faisait des gestes qui étaient particulier, mais quand on écoute, on comprend pourquoi il faisait ces gestes-là. Et le maire Marchand, pour ne pas répondre à une question, a décidé, lui, que dans sa tête, c'était un salut nazi. Et, bon, il a été questionné tout au long de la journée hier par rapport à ça. Dans les stations de radio de Québec, incluant ici, on dénonçait un peu l'attitude du maire Marchand qui a carrément crucifié cette dame-là. Le Journal de Québec, qui au départ avait contribué à crucifier cette dame-là en mettant le signe où elle avait la main dans les airs en disant que c'était un signe nazi, alors que ça n'en était pas un. Ça a pris plusieurs heures, mais finalement, ce matin, Bruno Marchand a décidé de s'excuser. Est-ce que c'est trop tard? Moi, si c'est des excuses sincères, les excuses, c'est jamais trop tard. Est-ce que tu le fais parce que tu as vraiment l'impression que tu t'es trompé ou est-ce que tu le fais pour acheter la paix? Si c'est vraiment parce qu'il a l'impression qu'il s'est trompé puis il devait des excuses à la citoyenne, je le salue, bien que ça me surprendrait. Mais si c'est « je m'excuse parce que je veux rester maire de la Ville de Québec pour les prochaines années parce qu'on va s'en aller en élection », je trouve que c'est pas une bonne raison de s'excuser. Mais cela dit, il le fait, donc il faut être honnête et il faut en parler. Et dans les prochaines secondes, Pierre-Luc Lachance, qui est conseiller à la Ville de Québec, qui est, que j'appelle... non affectueusement, Capitaine Bretelle, c'est quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui est un bully pour les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, entre autres des citoyens qui vont le rencontrer, et même les oppositions à la Ville de Québec. Pierre-Luc Lachance a une façon toxique d'être à la Ville de Québec, et ça a été rapporté, du moins depuis que je suis sur les ondes ici, là, j'en parlais régulièrement. Puis des fois, j'avais l'impression d'être le seul à trouver ça. Mais finalement, il y a une conférence de presse ce matin. Puis on va vous en parler dans les prochaines minutes, là, à savoir qu'est-ce que Pierre-Luc Lachance va faire. Mais certainement qu'il va parler de cet épisode-là. Là. Donc, on a tous bien hâte de savoir. Il y en a qui disent, est-ce qu'il va démissionner? Est-ce qu'il va rester en place? C'est une bonne question. Moi, j'ai pas d'informations qui provient de la gang de Bruno Marchand. J'ai aucun contact, en fait, avec eux et je me sens beaucoup mieux comme ça. Mais on va suivre ça avec une grande attention. Qu'est-ce qui va se passer avec le conseiller Pierre-Luc Lachance qui va rentrer en thérapie pour être un peu moins agressif envers les citoyens puis envers les groupes d'opposition. Ça serait peut-être une bonne affaire. Du moins, aujourd'hui, on a un gros show. On est avec vous autres jusqu'à 14h. Pascal CV qui est là en remplacement d'Audrey, comme je vous disais tantôt. On va parler de la semaine de prévention du suicide, Pascal, parce qu'on est en plein dedans. On va recevoir un gars que j'ai reçu dans Mars au soir, un comédien qui est de Québec. Son nom, c'est Hugo Giroux. Il est grand, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Mais sur quoi, hein? CC3, CC4?
Je sais pas combien.
Tu l'avais jamais rencontré?
Ben oui, je l'ai déjà rencontré.
Puis il mesure comment, à peu près?
Au moins 6 pieds, mais quoi, je sais pas.
C'est un grand bonhomme. Ouais. Donc, il va être avec nous vers 10h30 pour parler de prévention du suicide parce qu'il y a des membres de sa famille qui ont malheureusement choisi une solution définitive à des problèmes qui étaient passagers. Puis j'aurai le plaisir de recevoir mon chum Guillaume Dulude qui est un gars que j'aime bien suivre sur les réseaux sociaux. C'est un gars qu'on a régulièrement parlé, Pascal, avec Audrey, quand il était en Afrique puis il faisait ses séminaires. Donc, il va être avec nous pour nous parler du côté sombre des gens. T'as-tu un côté sombre, toi?
Il paraîtrait que tout le monde en a un.
OK. C'est quoi le tien, toi?
Ben je sais pas. Je l'ai pas encore connu. J'ai rien commis de sombre.
Quand il n'y a pas de micro puis quand il n'y a pas de caméra, y a-tu quelque chose que tu fais de particulier que tu dis... et que je suis content que les gens sachent pas que je fais ça.
Mais je sais que je peux manquer de patience.
Ah, oh, ça.
Mais il y a rien que je fais d'illégal ou d'immoral. Ça, non. Mais je veux dire, j'ai beaucoup de défauts comme tout le monde.
Ouais.
Mais il y a rien que ça transparaît pas par ma personnalité dans okay. N'importe
quoi. T'as pas un petit côté Machiavel en toi? Ce qui pourrait être un côté sombre. Machiavel, c'est très intelligent, mais ouais. Moi, je considère ça comme très, 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 très sombre. Là.
Ouais, non.
C'est de la manipulation.
Malheureusement, comme dirait ma psychologue, il faut que je cultive la colère. Ça dit tout.
Ta psy t'a dit de cultiver ta colère.
Oui, depuis 10 ans.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que je ne me fâche pas assez dans la vie. Je n'en veux pas assez aux gens.
OK.
J'explique les comportements.
T'explique les comportements. Hey, juste un petit aparté. Lachance va rester en place. Pierre-Luc Lachance va rester comme conseiller à la Ville de Québec, mais ne se représentera pas. Donc, peut-être qu'il pourra devenir gardien de prison par la suite, on ne sait pas. Mais cultiver sa colère.
Oui, c'est ce que je dois faire. Je ne sais pas toujours comment je dois faire ça, mais
ouais.
Semblerait-il qu'il faut que je me tienne un peu plus. Là,
parce que tu n'es jamais colérique.
Hey, Ça m'est déjà arrivé comme n'importe qui, là.
Elle sert à quoi, la colère? Hein?
Moi, je me fâche quand je suis en compagnie de quelqu'un d'insensible. Ça vient vraiment me chercher.
Puis tu le perçois comment, ça?
C'est de l'injustice. La personne est centrée sur elle-même. La personne pense à ce qui va l'impacter. Elle, ça me fâche, c'est de l'injustice. J'ai vraiment un sentiment de collectivité qui est en moi, là.
OK. Fait que ça,
c'est capable... Ça, ça vient me chercher. C'est vraiment... La chose qui me dérange le plus, là...
Ouais.
C'est l'injustice, que ce soit au professionnel ou au personnel, dans la société. Si tu veux me faire tilter, c'est ça.
OK.
Mais c'est... j'apprends beaucoup à respirer par rapport à ça.
Ça, y en a-tu beaucoup de ces gens-là?
Ben, moi, j'ai tasse, là.
Ouais.
C'est là où je dois cultiver la colère. Et les tasses. Je ne dois pas les laisser trop longtemps.
Cultiver la colère. C'est la première fois que j'entends ça.
Ouais, moi aussi.
Je serais curieux, moi, de jaser avec un psy, à savoir c'est quoi mes problèmes. J'en ai-tu?
J'embarque pas là-dedans. 88-971-101, si jamais vous en percevez chez Yann, il veut le savoir.
Yannick, ça c'est Chris qui nous écrit. Yannick, il faut que tu aides Pascal à cultiver sa colère. Ben, des fois, je suis capable de peser sur le bon piton.
Oui, tu le sais, malheureusement.
Il est full orgueilleux et hautain. On parlait de Pierre-Luc Lachance tantôt. Des excuses de politiciens, si vous croyez au hasard aller au casino, ça c'est Max qui nous envoie
moi,
ça.
Moi, je suis d'accord avec quelqu'un, c'est la même observation. Il s'est excusé pour ses conséquences, le maire, mais pas pour son acte. Pour les conséquences de son acte, mais pas pour son acte.
Ouais, mais c'est important de le rapporter. Tu comprends? Il a décidé qu'il s'excusait. Moi, je trouve que c'est long en maudit. Là, les heures, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça fait plus de 24 heures. Puis n'importe qui a assisté à tout ce qui s'est passé, même si vous l'avez lu dans le journal, si vous l'avez écouté à la radio, si vous l'avez vu en direct à l'hôtel de ville, on voyait que le maire avait comme oublié qu'il était maire de Québec, là, puis qu'il avait comme une tâche à accomplir, puis d'être respectueux envers les citoyens, puis ne surtout de ne pas cautionner un bully qui est constamment en train de boulier des conseillers de l'autre côté ou encore des citoyens qui vont poser des questions. Les gens se reconnaissent beaucoup dans ce que tu dis, Pascal.
Par rapport à quoi?
Julien qui dit « Pareil pour moi, Pascal, l'injustice, l'inégalité, c'est pour moi ce qui est le plus important. »
Puis ça peut se traduire, mettons, l'injustice envers quelqu'un. Quelqu'un qui te regarde puis qui va dire « Toi, t'es comme ça, puis c'est ça, puis moi, je vois ça, puis tu devrais changer ça, puis ton parcours, c'est injuste. » Parce qu'il est en train de se prononcer sur toi, à ta place, puis faire des amalgames, puis amener les autres à penser que tu as ces étiquettes-là sans qu'ils te connaissent foncièrement. Puis la personne, tu peux la connaître au professionnel, mais tant que tu ne la connais pas au personnel, que tu ne sors pas du professionnel, mettons un collègue ou une collègue, tu ne connaîtras jamais la personne pour ce qu'elle est. Au même titre que dans une famille, en amitié, puis là, on pourrait déborder l'injustice collective aussi. Quelqu'un qui va se permettre de juger, mettons, des comportements de gens qui n'ont pas le même parcours d'enfance. Ouais, mais ça, c'est un... OK, mais toi, si tu avais été dans sa situation, ça ne serait pas la même chose. Mais probablement que tu aurais aussi des traumatismes ou encore ta personnalité qui aurait été développée en conséquence. Ou quelqu'un qui réussit constamment parce que justement, la personne a un côté sombre et plus machiavélique, mais cache très bien son jeu parce qu'elle est capable de manipuler les autres. Tu sais, l'injustice se traduit par beaucoup de choses, mais celle-là me dérange beaucoup.
Ouais. Je pense que l'injustice...
Vu ça en entreprise, quelqu'un qui va parler dans le dos de quelqu'un pour se remonter.
Non, mais ça, c'était le lundi.
des patrons qui ne vont pas nécessairement le voir ou encore vont utiliser plutôt la facette performante de cette personne-là pour la faire continuer d'avancer, mais officiellement, un peu une pomme pourrie. Là.
Ouais. L'injustice, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent me mettre en colère, mais je suis rarement en colère, à part quand il y a des choses qui se passent. Ouais, regarde, tu vois, hier, la situation, c'était de l'injustice envers la citoyenne, puis c'est venu me chercher. Fait que oui, l'injustice, ça fait partie de ça. Tout ce qui est mensonge, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est... À un moment donné, tu m'as appris un mot que je trouvais intéressant. C'était la première fois que j'entendais ce mot-là en anglais. Mais des gens qui... toi, tu étais là, tu as assisté à la scène, mais qui essaient de te convaincre que c'est pas ça qui est arrivé.
Mansplaining. Oui.
Bon, ça...
Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, là.
Ça me tue, ces affaires-là. Là. Puis je me dis, t'as peur. Puis des fois, j'assiste à ça, pas nécessairement sur mon lieu de travail ici, mais j'ai été longtemps dans la restauration. Puis des fois, il y avait une plainte entre les clients puis les serveurs, les serveuses ou les barman, les barmaids. Puis moi, j'assistais à ça. Puis d'un côté, le client rapportait comme sa version des faits. Puis de l'autre côté, tu avais la barmaid ou le barman qui racontait sa version des faits. Puis tu disais, t'es un peu, là, les deux exagèrent, alors que moi, j'ai assisté à ça. Je me mêlais jamais de ça, non, parce que je me mêle de mes affaires. Mais il y a des gens qui déforment la réalité. Ça arrive dans
inconscient
les...
Inconscient ou conscient.
C'est ça. Ça arrive dans les couples. Aussi, oui. Ça arrive dans les couples, ça arrive dans les amitiés, ça arrive au boulot. Mm. Et ça, ça me tue à chaque fois. Là.
Le problème, c'est quand c'est conscient. Quand c'est inconscient, c'est que c'est une perception, là. Mais quand c'est conscient, c'est quelqu'un qui manipule la réalité. Puis quand je t'ai dit de cultiver la colère, moi, la chose que j'ai eu le plus à travailler, c'est là-dessus. Quand quelqu'un déforme la réalité, je vais dire, ah, oh, mais ça, c'est sa perception. Fait qu'il l'a vécu comme ça, nanana. Ouais. Et aussitôt qu'une personne malveillante tomberait sur un comportement comme le mien, d'analyse puis d'ouverture face à, ah, oh, c'est ça, t'as... Oh, c'est... tu l'as vu demain, OK, parfait, on va en discuter ou autre, il en profite. Puis c'est là où cultiver la colère est apparu dans ma vie avec ma psy, parce qu'elle dit, faut que tu sois assez capable d'en vouloir à quelqu'un qui veut te manipuler. Quand tu le vois, elle dit, en plus, tu le vois. Laisse pas ta perception de son parcours ou la bonne foi prendre le dessus sur ce qu'il est en train de te faire.
Mais en couple, ça doit être difficile. Quand toi, tu perçois quelque chose, tu as l'impression que c'est la réalité, puis l'autre est en train de te dire « Non, mais toi, tu penses que c'est ça, mais c'est pas ça pantoute. » Alors que tu l'as vécu, tu viens qu'à douter de tes propres facultés mentales.
Mais surtout quand c'est fait grossièrement, mais que t'es super en amour. Là, à un moment donné, moi, ça m'est arrivé, mettons, une personne qui me dit « La voiture était verte. » Puis clairement, elle était rouge, pas daltonienne, là. Mais avec une confiance, là, une assurance. T'as regardé dans les yeux, tu dis « Non, elle était verte. » Tu viens mêler. Puis ça, là...
Tu doutes de toi-même?
Hey, j'avais jamais vécu ça avant. Parce que je pense que je suis quand même une femme forte et qui a des opinions et autres, là. Mais avec un pas de recul quelques années plus tard, là, je suis fascinée par à quel point mon cerveau n'était pas connecté à ce que je suis à ce moment-là dans ma vie, par l'amour, par l'affection.
Ouais, moi, je l'ai vu, ça, mais je ne l'ai jamais vécu personnellement, mais en couple, ça doit être très lourd. Tu sais, une conjointe qui perçoit quelque chose, puis c'est d'une évidence, là, c'est-à-dire que l'homme peut être hyper violent verbalement avec elle, puis après ça, elle dit « J'aimerais que tu cesses d'être violent verbalement avec moi », puis il dit « Non, non, c'est pas ça que je fais. » Non, non,
c'est juste à cause de toi.
C'est juste normal. Ou c'est à cause de toi. Tu viens qu'à... J'imagine que la personne vient qu'à douter d'elle-même.
Mais t'as pas carrément. Idée. T'as pas idée profondément ce que ça peut être, ça peut faire, à quel point ça peut être surprenant.
Dave dit « Yann, tu pensais que c'était ça, que c'était, mais c'était pas ça que c'était. » C'est le résumé qu'il vient de faire.
Christian, il dit « gaslighter ». Oui, ça, c'est,
ah, c'est ça, c'est gaslighting.
Gaslighter, en général, mansplainer, c'est un homme qui veut t'apprendre quelque chose, qui, tu sais, la position de sexe. Là.
Okay. C'est ce mot-là que tu m'avais appris.
Gaslighting.
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 Je sais pas encore pourquoi tu me l'as demandé, parce que tu m'es arrivé, tu m'as dit « Connais-tu ça? » C'est quoi ça veut dire?
C'est...
T'étais où dans ta vie pour te poser?
Je me rappelle pas si j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, gaslighting. Parce que moi, mes gars, ils m'apprennent plein de mots marocains. Là. Ils ont des influenceurs marocains, fait qu'ils m'apprennent des mots...
Ouais, je suis pas très profond, là.
Ils m'apprennent des mots marocains, puis toi, tu m'apprends des mots que les jeunes utilisent maintenant. Fait que le gaslighting, j'avais vu ça soit sur les réseaux sociaux où je n'avais entendu parler... Dans mon entourage. C'était-tu à la maison avec les filles c'était-tu...
Peut-être, c'est très de la génération aussi, là.
Mais gaslighting, personne n'avait jamais entendu ça en 2000, là.
Fait que toi, t'as laissé aller ça, puis là, t'es venu me voir, puis t'as dit « Excuse-moi, ça, tu sais quoi, ça? Ouais. » C'est ça que c'est pas...
Peut-être que j'avais l'impression que tu m'utilisais parfois.
Pardon.
Ah, peut-être. Pour me faire douter
de moi-même.
Là,
t'es en train de déformer la réalité à ton avantage.
All right. Hugo Giroux, comédien, s'en vient avec nous autres dans les prochaines secondes. On parlait la semaine de prévention du suicide, mais d'ici là, Sarah Dufour. En français, s'il vous plaît, il y a des gens qui ont dit « Yann, gaslighting, qu'est-ce que ça veut dire? » Là, je leur ai expliqué que c'est une forme d'abus, de manipulation qui sert à faire douter ta victime quand tu es l'individu qui fait du gaslighting. Mais en français, Pascal, ce serait desservelage.
On entend moins ça.
Puis ça vient d'un
on aime ça.
Ça vient d'un film de 1944. Le film s'intitule Gaslight. Et c'était l'histoire d'un homme, Charles Boyer, qui manipule sa femme, Ingrid Bergman, afin de lui faire croire qu'elle perd la raison et ainsi lui voler des bijoux précieux dont elle a hérité.
Pauvre Ingrid.
Fait que gaslighting, ça vient de là, mais j'ai pas l'impression que... Écoute, je suis né un peu avant toi, là, des années 80, puis J'ai pas l'impression, Pascal, que ça existait, cette expression-là, au Québec.
Je pense pas qu'on avait défini effectivement ça. Puis tu sais, il faut faire attention, là. C'est comme tomber dans le narcissisme rapidement, là. Je veux dire, tu peux être en désaccord avec ton ami ou ton conjoint ou ta conjointe, puis pas avoir la même vision des choses, puis vous êtes pas en train de vous gaslighter, là. On n'est pas là. C'est plus profond que ça. C'est vraiment une mission, là. C'est pas un genre, je me sens comme ça, moi, j'ai perçu ça comme ça, ta-ta-ta. Ça, c'est normal et sain d'en discuter.
Exact, exact. Pour la météo, c'est pas chaud pour la pompe à l'eau aujourd'hui, les amis. C'est un genre de moins 23 comme température ressentie. On nous dit moins 16, là, mais si vous êtes au grand vent, c'est un peu plus frais. Accumulation de neige aujourd'hui de 5 cm. Pour ce qui est de ce soir, il y aura encore là de la neige, un autre 5 cm. Donc un 10 au total avec des températures stables à près de moins 6 ce soir. Vendredi, demain, généralement nuageux avec 40% de probabilité d'averse de neige. Poudrerie par endroit en matinée et en après-midi. Midi. Le soir, ben, ce sera un beau ciel dégagé, minimum de moins 14. Samedi, dimanche, c'est souvent ce qui nous intéresse, ensoleillé pour samedi, maximum de moins 7. Et dimanche, ce sera de la neige intermittente, maximum de moins 7 degrés. C'est la semaine de prévention du suicide. Ça se déroule du 2 au 8 février. Et pourquoi on en parle? Ben, mieux vaut prévenir. Plusieurs personnes ont malheureusement, au fil des années, pris une décision définitive à des problèmes qui étaient passagers. J'ai eu l'occasion dans les dernières semaines de recevoir un comédien, un gars que je ne connaissais pas personnellement, que j'avais vu à la télé, que je trouvais que c'était un bon acteur. Puis on m'avait raconté un peu son histoire. Puis lui, la semaine de prévention du suicide, ça le touche beaucoup. Puis là, on s'est dit, ben, en fait, Pascal a dit, pourquoi justement ne pas lui parler? Son nom, c'est Hugo Giroux. C'est un gars de Québec. Salut, Hugo!
Allô, allô, comment ça va?
Ça va très bien. Content de te jaser. Est-ce que ça remémore en toi des mauvais souvenirs à chaque fois qu'on parle de la semaine de la prévention du suicide?
Ben moi, ben comme vous savez, mon plus jeune frère est décédé il y a 22 ans de ça. Mon frère aîné, ça fait le 5 juin 2023, fait que c'est encore frais. Puis bon, avec tout, j'ai quand même fait beaucoup d'entrevues depuis 2 semaines, puis c'est ça. Puis les gens sont, ben c'est ça. Moi j'en ai 2, fait que c'est un peu intense dans une. Si on décidait de faire un scénario, c'est sûr qu'il y aurait des conseillers en scénario, il nous dit, ben là, 2 morts dans un scénario, c'est un peu intense. Non, non, ça se peut.
Ouais, même le réalisateur se le ferait dire. Là.
Hugo,
exactement. Oui.
Souvent, on parle, puis en psychologie, les psychologues qui étudient le suicide et tout parlent d'un genre de l'effet réaction qui est autour des suicides. Je m'excuse de te poser la question, mais as-tu l'impression que ça a pu jouer dans votre famille? Puis est-ce que toi, tu te sens parfois un peu relié à ce rayon-là de réaction?
Informatif, Didier, il était schizophrène. La schizophrénie, c'est une maladie extrêmement particulière, extrêmement, comment je pourrais dire, dérangeante, mais pas un très bon mot, là. C'est encore plus que ça. Des présences, c'est-à-dire des visions, des présences sonores aussi. Didier, lui, mon plus jeune frère, c'était ce qu'il voyait souvent, c'est la grande faucheuse. Fait que, tu sais, il s'est pas pris Mickey Mouse ou Donald Duck. Lui, c'était la grande faucheuse. Fait que c'était un peu d'être habité par ça, puis sachant très bien que c'est pas réel, mais ça, c'est la maladie, c'est les neurotransmetteurs amènent ça au quotidien. Fait que j'ai pas le pourcentage, mais on m'a déjà dit qu'il y avait un très haut pourcentage de schizophrènes qui passaient à l'acte. Bon, hey. David, lui, ça, c'est davantage quelque chose de ben, de personnel. Il y avait vraiment ses enjeux à lui. C'est sûr que David aurait pu faire autrement, c'est sûr et certain. Mais il l'a pas fait. Puis, dans tout ce qu'on entend, mettons en termes de tous les organismes qui font la promotion, de parler tout ça. Moi, ça, c'est sûr qu'il faut le faire, ça, mais il faudrait peut-être se questionner des fois pourquoi ils font pas, t'sais. Puis on entend beaucoup dans l'espèce de discours ambiant. Il y a certaines personnes qui, eux, pensent que c'est une question de volonté, qu'un bon coup de pied dans le cul, ça, on l'a déjà entendu. Puis c'est correct si tu penses ça. Libre ta vie, mais je veux dire, c'est plus complexe que ça. T'sais, on est à une époque, à un moment donné, on sait bien des affaires, puis je veux pas retomber dans la pandémie, mais on était dans la pandémie, puis il y en a qui étaient pro, il y en a qui étaient contre. Chacun avait son opinion dans la vie, alors que ça reste de la science. Puis je veux dire, les émotions, c'est quelque chose de bien particulier. C'est quelque chose de bien nuancé. Puis à un moment donné, dans la vie, mon frère s'est pas amusé à nous faire chier. Mon frère s'est pas amusé non plus à nous casser le bécic. En plus, notre père... Mon père est placé depuis à peu près 7 mois. il y a un diagnostic d'Alzheimer. Fait que tout ça est arrivé en même temps. Fait que je peux vous dire qu'à un moment donné, un, de se retrouver seul de frère, orphelin de frère, c'est pour ma mère qui mais mon père aussi, mais mon père, il n'a plus conscience de ça. Fait que pour ma mère, c'est immense, tu sais, d'aller visiter son mari à tous les jours, puis en même temps, de faire son deuil aussi, puis de faire son quotidien, puis elle est autonome, elle a son réseau, elle a ses amis autour d'elle, mais tout ça, ça fait partie de ça. Fait que David, c'était quelqu'un d'intelligent, c'était quelqu'un de sensible, mais c'était quelqu'un qui avait des enjeux extrêmement profonds. Et c'est ça. Fait que, tu sais, dans la vie, on peut être en désaccord, mais faut pas non plus... comment je pourrais dire... c'est pas un débat qui est super facile à faire. Là, on parle pas de, OK, en janvier, on s'en va au gym, puis ça prend de la volonté, puis let's go, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Puis je sais aussi, puis je vais pas déborder, mais je sais aussi que il y a déjà eu de la manipulation par rapport à ça. T'sais, dans des couples toxiques, il y a des hommes et il y a des femmes aussi qui ont peut-être utilisé ça pour faire du chantage émotif. Ça se peut aussi. Ça, j'en suis. Mais la plupart des gens, c'est ça, je veux dire, à un moment donné, ils pensent plus à ce qu'il y a autour d'eux. David, il avait un super beau réseau, il avait un super bon travail, il avait son condo, tu sais, il y avait pas de problème dans la vie, mais il y en avait. Fait que c'est sûr que moi, j'aurais voulu qu'il fasse autrement, il aurait pu faire autrement, c'est sûr que s'il m'avait appelé, j'ai toujours été là pour lui.
Ouais. Tu sais, Hugo, tantôt t'as dit, il y a des gens qui pensent que les gens qui se suicident, c'est des lâches. Tu sais, j'ai souvent entendu ça, t'as pas idée. J'ai même eu un collègue qui avait ces réflexions-là constamment. Mais quand tu jases avec quelqu'un qui l'a essayé une fois, deux fois, trois fois, eux, ce qu'ils te disent, en fait, c'est qu'ils veulent pas mourir. Ils veulent juste cesser de souffrir. Ils veulent juste cesser d'être un boulet pour les gens qui les entourent. Tu parlais de maladie mentale. Ben, j'imagine qu'il y avait certains moments de conscience où ils se disaient, si moi, ma vie, là, je suis lourd pour moi-même parce que c'est épouvantable de voir des affaires qui n'existent pas et d'entendre des choses qui n'existent pas, mais je suis lourd aussi pour les autres.
T'sais. Ah, mais non, mais ça, c'est sûr. Puis je disais, tu sais, tu parlais de mon métier, tu sais, faire incarner un personnage, une personne que je sais pas, moi, qui fait de l'autisme, mettons, c'est pas juste de visionner pendant 5 minutes un tape. Tu sais, c'est plus compliqué que ça. Ce que je veux dire, c'est que composer, incarner quelqu'un qui a une pathologie, si on me demande de faire ça, t'sais, faut s'amarrer avec une vérité le plus possible, t'sais, pour pas tomber dans le cliché pis tout ça, mais ça rejoint ce que tu dis, t'sais, mon frère, moi, c'était un gars qui avait un réseau incroyable, qui avait pis t'sais, j'ai d'autres amis. Moi, j'ai mon ami Claude Boivin, un gars de Québec, mon grand chum. Claude, son frère aussi, lui, a passé à l'AC. Mmh. Stéphane, c'était la personne à Québec. Il était en business. Il avait de l'argent. Tu sais, il avait un réseau social hallucinant. C'était quelqu'un qui était plus grand que nature. Ceux qui connaissent les Boivin, c'est des gens qui sont... Ben, Steph, il l'a fait. Mais tout le monde était sur le cul parce qu'il n'y avait pas de signe. Fait que c'est ça. C'est les émotions et l'anxiété, c'est extrêmement particulier. Fait que tu sais... C'est pour ça que ce débat-là, c'est tout le temps un peu... tu veux pas tomber dans le débat qui va te dégénérer, mais mon frère, il fonctionnait dans la vie. Là. Mon frère, c'est quelqu'un d'intelligent. Mon frère, c'était un bachelier. Il avait une super bonne job dans une maison d'édition. Il gagnait super bien sa vie. Mais tu sais, il a fait autrement. Sauf que moi, j'y ai parlé 2 semaines avant, puis il était anéanti de parce qu'il arrivait à mon père, qu'il avait des petits enjeux de santé aussi, puis là, il extrapolait tout. Puis ces enjeux aussi qu'on a, on a une similitude émotive, lui puis moi. Moi, je travaille là-dessus depuis longtemps. Lui, malgré sa grande intelligence, ne voulait pas le faire.
C'est fascinant, ça, parce que tout ce que t'amènes, en fait... fait en sorte qu'il n'y a pas d'étiquette à poser sur des gens qui pourraient passer à l'acte. Puis, tu sais, nombre de suicides au Québec, c'est 3 par jour, c'est plus de 1 000 par année. Les personnes endeuillées, bien, c'est 6 à 10 personnes touchées de près par chaque suicide. Il y a un taux de suicide 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Il y a des constats qu'on doit faire, il y a des réflexions qu'on doit avoir, mais il y en a une, puis je la trouve importante. Il y a une phrase qui m'a marquée à vie, moi, c'est que la souffrance ne se calcule pas. Tu sais, quelqu'un qui souffre par rapport à un événement du temps, oh, je vais essayer de relativiser avec quelqu'un qui a vécu quelque chose de pire que moi ou autre pour essayer de s'en sortir. Mais la souffrance ne se calcule pas. Il n'y a pas d'échelle. Mais... on ne peut pas comparer une souffrance non plus. Puis c'est là où peut-être il faut être un peu plus attentif quand quelqu'un souffre envers quelque chose.
Bien, ça, c'est sûr. Je veux dire, tu sais, si tu fais une recette, là, je veux dire, tu sais, 3 quarts de tasse, c'est 3 quarts de tasse. Mais je veux dire, t'as envie, c'est ça. On a le syndrome de tout connaître, de tout savoir, puis c'est ça de même. Tu ça rentre, puis ah ouais, il a pas de coup de cul. C'est pas ça. Je veux dire, le mal de vivre, là, c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement pernicieux. Puis oui, c'est sûr qu'on peut se dire, ben, il y a des enfants qui crèvent de faim, la bande de Gaza. C'est sûr, ça. Il y a des gens qui souffrent dans la vie, mais quand tu souffres dans la vie, tu veux pas prendre le spot de personne. T'es juste pogné avec tes affaires. Puis c'est comme tu dis, les gars. Moi, j'étais un gars, je fais 6'3", 235, je bench 200. Je veux dire, je manque pas d'ambition dans la vie. Je manque pas de... J'ai un métier particulier, mais je suis capable de me défendre, je suis capable de... Mais je veux dire, c'est le côté masculin des gars. Ouais, les gars, on est capable. Hey, on peut-tu donner un break un peu à un moment donné? Être vulnérable et avoir peur dans la vie, c'est pas un péché. Puis ça t'enlève pas de l'ambition dans la vie, puis ça t'enlève pas, t'es ton côté. Là, je reviendrai pas là-dessus, mais le débat, t'es sur les morts l'alpha, puis tout ça. Je veux dire, on entendait souvent, ouais, mais moi, la place des gars, moi, là, les moments où j'ai été incompétent, où j'ai pas été adéquat dans ma vie professionnelle, amoureuse et tout ça, j'en suis l'unique responsable. Il n'y a pas personne qui m'a empêché d'être ou qui m'a empêché de me développer ou qui m'a empêché de... On est dans une société qui évolue. On est dans une société où les choses changent. On n'est pas dans les années 30-40. Fait qu'à un moment donné, il faut s'amarrer à ça. Puis il faut être curieux. Puis il faut lire des affaires. Puis il faut arrêter de lire et d'écouter tout le temps les mêmes patentes. Puis d'essayer de s'ouvrir les horizons. Puis de dire, ah, OK, lui, il n'est pas comme moi. Non, il n'est pas comme toi. Puis elle n'est pas comme toi. OK, mais ça fait-tu que tu peux les... Non, tu peux. Juste d'être ouvert, puis juste d'être à l'écoute. C'est pas un péché d'être à l'écoute envers personne dans la vie, tu sais, mais là, il y en a qui sont plus boqués que d'autres, puis c'est correct. Moi, je suis pas là pour faire la leçon à personne. Mais m'amener, là, tu sais, c'est des fainéants, puis c'est wow, qu'est-ce que mon frère, moi, c'était pas un fainéant, puis mon frère Didier non plus. Puis il y a plein d'autres personnes, le mal de vivre, si on s'intéresse vraiment à ça, puis peut-être que si on s'intéresse, ben, on s'en intéresse, mais les gens qui portent des jugements, c'est peut-être parce qu'ils ont peur de ça aussi, tu sais. Ouais. Ça, c'est un classique, tu sais.
Hugo, est-ce qu'on peut confronter ces gens-là? Parce qu'on a tous des gens autour de nous, que ce soit des collègues de travail, des amis ou des membres de notre famille qui ont des moments très particuliers, puis tend à se retirer. Est-ce qu'on peut leur demander, si on a des doutes, est-ce que tu penses à te tuer? Est-ce que tu penses à te suicider? Ça se demande-tu, ça?
Ben, moi, je vais dire, là, avec deux frères suicidés, je vais dire, à partir de maintenant, puis depuis le 5 juin 2023, il n'y aura pas de gants blancs. Là, tu sais, je veux dire, je connaissais les enjeux de David. Puis David, petite parenthèse, David, il avait une pathologie cardiaque depuis son enfance. Puis il était suivi par le docteur Fouron, le luminable docteur Fouron, le père de la journaliste Catherine Fouron. Et puis David s'est fait opérer en 2021 parce que son cœur, il était à 10%, fait qu'il était susceptible et qu'il se réveille pas. Il m'a appelé. Puis là, pendant 2 semaines, il a fait tous les tests. Puis là, c'était la grande angoisse parce que tu te fais opérer à cœur ouvert, c'est pas rien. Une opération de 7h30 de temps. Je vous dis ça parce que mon frère, il m'a appelé. Il avait la chienne, comme ça se peut pas dans la vie. Dans notre famille, on a peur un peu des maladies puis de la mort. T'sais, vous me direz que se faire opérer à cœur ouvert, c'est pas banal, effectivement. Mais moi, j'étais là. J'étais allé chercher. Puis à un moment donné, juste de l'amener à l'hôpital, c'était comme sécurisant pour moi. Fait que David, il savait très bien qu'il pouvait m'appeler. Là, 2 semaines avant, moi, je l'ai appelé. Puis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Même m'a dit que tu filais pas, puis t'avais un problème avec mon asiatique, puis il s'était mis à aller sur le net, puis là, il disait, ah, mais là, tu vas peut-être être infertile, fait que je pourrais peut-être plus d'avoir des réactions, puis j'étais, man, voyons, qu'est-ce que tu veux, calme-toi. Moi, j'ai quand même un bon réseau, fait que je connais plein de médecins, on va aller consulter, fait que c'est fait comme une histoire, plus ce qui arrivait avec mon père, tout ça à un moment donné, puis plus ses enjeux personnels, mais c'est sûr que si moi, j'avais su, puis le rapport du coroner est comme éloquent, il avait verbalisé 2 semaines avant, à sa conjointe de l'époque. Moi, ça, je l'ai jamais su, ça. Mmh. Moi, je l'ai su dans le rapport en disant qu'il avait dit, je pense que je vais me tuer. Et ça, moi, je le savais pas. Ça, j'ai été un peu, puis je veux pas responsabiliser personne, mais ça, j'ai été vraiment en beau calvaire de ça. Avoir su ça, j'aurais pris mon char, je serais allé le chercher, je l'aurais amené à la maison, puis je l'aurais sécurisé. Ça, c'est sûr et certain. Mais je l'ai pas su. Mais là, tu sais, m'amener de dire, t'as comme un problème, tu te donnes asiatique, tu disais, buddy, on est ensemble, ça va bien aller, puis avec toi, on va se relayer, puis on va être ensemble. T'sais, moi, je pensais que c'était juste à ce niveau-là. Mais tu sais, de là à se pendre, non, ça, je pensais pas ça. Vraiment pas.
Est-ce que t'as répondu à ta question? Oui, vas-y.
C'est ça, tu sais, c'est ça, je oui.
Est-ce que tu avais constaté un boost d'énergie, Hugo? Quand il avait pris sa décision, est-ce que tu as constaté que ça avait de l'air d'aller mieux? Parce que souvent, c'est ce qu'on nous rapporte. La personne file pas bien pendant des semaines et des semaines, puis après ça, on a l'impression qu'il y a une dose d'énergie qui arrive, puis pouf, la décision se prend là. Puis souvent, ce que les psychologues avec qui j'ai eu la chance de jaser du suicide en ondes m'ont dit, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui prennent leur décision, et à partir du moment où ils ont pris leur décision, ce qu'ils veulent pour leur dernier jour, c'est passer de bons moments avec les proches.
Je vous parlais de mon ami Claude, je pense que son frère Stéphane, c'était ça. David, c'était pas ça du tout. la veille, il est venu chez avec mes parents, puis il avait son condo dans le vieux Longueuil, fait qu'il a fait sa petite routine, puis après ça, ben moi, j'ai reçu l'appel en disant, il répond pas à son cell, j'étais comme calvaire. Mais non, il y avait pas de... T'sais, j'ai pas eu d'appel, salut, quoi, non, au contraire, il était... Ma mère l'a trouvé triste, l'a trouvé avec l'œil loin, distant. Non, il était pas là-dedans. Il était pas là-dedans, mais c'est ça, je l'ai déjà entendu moi aussi. C'est parce que quand ils prennent la décision, ils deviennent comme, OK, là, ils sont comme en paix. Entre parenthèses, vous... C'est ça. Mais non, David, c'était pas ça du tout. Ouais.
Est-ce que, parce qu'il y a aussi des phénomènes qui nous sont rapportés, là, les gens, ils ont tendance à vouloir donner des cadeaux, des choses qui leur tiennent à cœur, qui veulent te confier. Tu sais, la raison pour laquelle on en parle, c'est parce que c'est la semaine de prévention du suicide. Fait que si on est capable d'être des sentinelles pour voir un peu ce qui se passe autour de nous,
tout à fait.
Pour nos
proches. Je vais vous rappeler mon chum Claude. Stéphane faisait ça. Deux semaines avant, il s'était mis à donner des affaires, le monde comprenait pas. T'sais. Non, David ne m'a jamais rien donné. Non, il était... Tu sais, il a su pas que mes parents, ils retournaient chez eux, puis il a fait ce qu'il avait à faire. Fait que non, tu sais, il y avait pas... Parce que c'est ça, le monde disait, ah, David, il va pas. Mais voyons, il va pas, David, tu sais. La semaine avant, c'était, tu sais que j'étais avec toi, David, tu sais qu'on est ensemble, on est juste deux à cette heure. Fait que on va s'aider, puis on va... Fait que tu sais, il savait, tu sais que tu peux m'appeler n'importe quand, tu veux venir à Québec, tu viens, puis David, il avait fait beaucoup de séjours, tu sais. Tu sais, bon, c'est ça, on faisait la tour de... La belle grande ville avec les bons restaurants, ça, on avait du plaisir, puis tout ça, fait que il savait très bien, tu sais, mais là, non, il s'est comme isolé. Fait que non, mais effectivement, ça, c'est des signes de, tu sais, qu'il faut rester à l'affût, puis rester vigilant.
T'as souffert de ça, tu l'as côtoyé de près, le suicide, t'es en deuil, c'est sûr, Hugo. Qu'est-ce que tu qualifies de bonheur maintenant? Comment est-ce que tu qualifies le bonheur? Comment est-ce que toi, tu t'essaies de t'éloigner de pensées sombres ou d'actes comme ceux-là qui sont irréversibles dans ta vie?
Je sais qu'il y a une problématique de... Parce que c'est vrai que les psychologues, c'est particulier, ça coûte cher et tout ça. Moi, j'ai un psy, je suis bien chanceux. Je consulte depuis l'âge de 16 ans, mais il y a eu des moments où je suis pas allé pendant 4, 5, 6 ans. Il y a des moments, il y a des grandes périodes que je suis pas allé. Moi, maintenant, j'ai toujours voulu vivre la vie par la grande porte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, la vie est tough, la vie est super belle. En fait, tout est possible dans la vie. Puis à un moment donné, si t'as une mauvaise journée, ben c'est une mauvaise journée. Je veux dire, tu sais, je veux pas faire un procès sociétal, mais des fois, c'est tout le temps, il faut se lever de bonne humeur. Non, on peut se lever smooth, tranquille, neutre aussi dans la vie, puis ça veut pas dire que t'es pas heureux. T'sais, pour répondre à ta question, c'est maintenant, tu sais, j'ai toujours fait ça, t'sais, j'essaie de vivre avec mes contradictions, t'sais, j'essaie de vivre avec les moments où je l'ai, les moments où je l'ai pas, puis de pas me compter des mentries. En fait, d'éviter de le faire le moins possible. Parce que, c'est ça, moi, j'aime la vie. Moi, il y a des gens, pas de l'agacé, il me dit, ah, t'es tu penses à le faire des fois. Écoute, moi, j'ai peur de mourir. Moi, je suis hypochondriaque. C'est sûr que je peux pas faire ça. Mais, tu sais, ceci étant dit, le bonheur, pour moi, il est comme multiple. J'ai un bon réseau. J'ai une carrière que j'aime, même si c'est complexe pis c'est particulier. J'ai une famille extraordinaire. Mon père, j'essaie de le voir le plus possible pis d'essayer d'en profiter. Ma mère, ben, il donnait le plus de... Mais c'est sûr, mais t'sais, ma vie est belle, j'ai un cercle d'amis incroyable. Fait que, non, moi, je sais pourquoi je suis heureux dans la vie. Pis t'sais, je sais pourquoi je suis malheureux aussi dans la vie. Puis ça, je pense que d'avoir, de pas réprimer, de dire, non, là, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, puis je suis encore à l'aise, ou bien, tu sais, je suis anxieux, tout ça. Oui. Moi, j'ai un tempérament anxieux, fait que moi, faut que je vive avec ça, mais maintenant, j'ai des outils pour vivre avec, pour cohabiter avec. Tu sais, j'ai évolué beaucoup, tu sais, j'ai 51 ans, puis j'ai fait, tu sais, je me suis amélioré en tant qu'humain, puis ça, c'est pas fini. Puis c'est ça, la beauté de la vie. Ouais. C'est que dans la vie, on s'améliore, on évolue, puis on change notre perspective, puis on pense pas comme qu'on pensait, tu sais, voilà 20 ans. Puis ceux qui restent barrés à 20 ans, ben, bravo, mais c'est pas ça, la vie. T'sais, la vie, faut avancer, on vieillit, on change, puis faut comme avoir du plaisir à faire ça, parce que ça fait partie du bonheur, toute cette espèce de route-là. Tu sais, la vie, c'est pas une autoroute. Des fois, tu pognes une route de gravel. Des fois, tu pognes une route de campagne. Des fois, tu pognes une route avec la mer et les oiseaux. Puis des fois, tu pognes une route dans noirceur. T'as pas de lumière. Puis, tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que de vivre tout ça en étant le plus humble possible. Mais, tu sais, la vie est, La vie est belle, t'sais, malgré le contexte politique qu'on vit, malgré tout ça, ça vaut la peine. T'sais. Il y a toujours de l'espoir, en fait.
Ah oui. David, ben, pas David, excuse-moi, Hugo, ça a été un plaisir de te recevoir. Je t'avais reçu dans Marceau Soir, il y a des gens qui s'en souviennent parce qu'ils disent c'est le fun de le revoir sur les zones de boulevard. On avait aimé le 60 minutes qu'on avait fait avec lui, fait que c'est les auditeurs qui te parlent. Un gros merci de ton intervention dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, Hugo Giroux.
Grand plaisir, salutations aux auditeurs, puis n'hésitez pas, hein, si vous sentez des choses, allez-y, vous pouvez faire la différence.
Yes, merci.
Merci, Hugo.
Au plaisir. Bye.
Hugo Giroux, qui est comédien, qui nous parlait dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, il a perdu deux de ses frères, son plus jeune et le plus vieux de ses frères. C'est l'histoire est d'une tristesse, puis comme il l'a dit, tu mets ça dans un film, puis les gens vont dire c'est un peu trop exagéré votre affaire. Lui, ça y est arrivé. Puis pourquoi on en parle? Ben parce que c'est important d'en parler. Il y a des gens qui nous écoutent qui filent pas. Tu sais, puis je parle aux gars parce que je suis un gars. Je le sais des fois que c'est dur, des fois, de se livrer du mal-être qu'on peut avoir. On n'a pas, pour ma génération, du moins, on n'a pas été élevé à se confier constamment sur nos petits bobos, nos petites affaires. Il y avait quelque chose de positif à ça, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement néfaste, c'est qu'on fait toujours de l'accumulation. Parfois, on a l'impression de pas en faire assez. On se le fait régulièrement reprocher, que ce soit par nos enfants, que ce soit par nos conjointes. À tort ou à raison, mais on accumule ça. Puis plus tu accumules du bagage sur tes épaules, plus ça devient lourd, plus tu te dis, voyons, pourquoi je souffre autant. T'en parles pas, t'accumules du poids sur tes épaules.
T'as de la misère à dealer avec les émotions aussi. C'est pas quelque chose que vous avez appris nécessairement. On commence à l'apprendre aux enfants là, en 2025.
Ce que la recherche tend à dire, c'est les gens qui passent à l'acte ne veulent pas mourir. Les gens qui passent à l'acte veulent cesser de souffrir. Mm-hmm. Donc, l'importance d'en parler. Puis, on a une ligne au Québec qui s'appelle 1-866-APPEL. 1-866-APPEL. Ben ça, c'est une ligne d'intervention. Il y a des gens qui vont vous accueillir, puis ça va être sans jugement. Il n'y a pas de photo. Ça va juste être votre voix.
Tu peux changer ton nom si tu as besoin. Il y a le 988 aussi, qui est une ligne directe au Canada, mais le 1-866-APPEL, c'est vraiment celle-là qu'au Québec, on envoie constamment dans les messages pour la prévention du suicide. Mais, tu sais, des fois, si tu penses que tu es entouré, mais finalement, tu dis « Hey, je suis mal entouré », parce que tes amis ont de la misère à dire quelque chose qui vont te soutenir, parce qu'ils n'ont pas les ressources, puis...
Ah, oh, peut-être parce qu'ils ont un trop-plein aussi.
Qui ont peut-être un trop-plein. C'est peut-être pas le moment pour eux d'aider. 1-866 appelle. Sinon, c'est sûr des aides externes. Mais c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose sur lequel se rattacher. Il y a plein de gens qui, malheureusement, moi, c'est ce qui me sidère, c'est ce qu'on reçoit par texto, là, au 418-971-1021. C'est comme des gens qui témoignent, on dirait, pour la première fois avec beaucoup de courage, qui nous racontent un peu leurs choses. C'est combien, juste en ondes en ce moment, ils ont pensé ou ont tenté. Ça me donne des frissons depuis tantôt, puis je me dis, OK, il y a un après pareil parce qu'ils nous l'écrivent à la fin de chaque message. Hey, si j'étais partie parce que je souffrais trop, et que, même si je voulais pas mourir nécessairement, mais que je souffrais trop, j'aurais fait une erreur.
10h49, vous avez des choses à me dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. On va faire une courte pause. Après la pause, on a le plaisir de jaser avec Guillaume Dulude. On parlait du côté sombre de certaines personnes pour en savoir plus sur la psychologie. Donc, d'ici là, s'il se passe quoi que ce soit, merci de nous informer. On revient.
C'est payant d'écouter Boulevard.
Comment ça se passe sur la route, les amis? 418-971-1021. Une grosse bordée de neige qu'on devrait avoir aujourd'hui, un genre de 10 cm annoncé par Environnement Canada. Sur Québec, ce serait moins 16, mais si vous êtes au vent, c'est une température ressentie de moins 23. Donc aujourd'hui, ce sera un 5 cm, ce soir, un 5 cm. Et demain, une journée généralement nuageuse, nous dit-on, avec des probabilités de 40% d'averses de neige, maximum de moins 4 degrés. Samedi, du beau soleil, maximum de moins 7 degrés. Et dimanche, ce sera de la neige intermittente, maximum de moins 7 degrés. Temps de vous parler d'un concours qu'on a à la station. On vous envoie voir l'Australian Pink Floyd Show qui va être en concert. Quand ça? Le dimanche 28 septembre à l'Agora du Port de Québec avec la tournée Wish You Were Here. Une présentation de l'album Wish You Were Here dans son intégralité. Des hits des albums Dark Side of the Moon, Animals, The Wall, Metal, Relics, et plus encore. Donc, les billets sont en vente demain à partir de 10h sur evenco.ca, evenco.ca. Pascal va vous donner l'indice à nous texter au 418-971-1021, 418-971-1021, pour avoir accès à votre paire de billets pour l'Australian Pink Floyd Show.
Il y en a une facile, il y a un animal totem, si je peux l'expliquer comme ça, il dit comme ça pour le groupe de Pink Floyd. Ouais. Il surfe souvent dans les airs lors des shows. Quel est-il?
Quel est-il? Toi, ton père écoutait ça tout le temps, là.
À fond, mais moi, c'est je trouve ça top, mais un de mes bandes préférées.
Un de tes bandes préférées?
Je vais prendre une pochette de trois, Queen, Pink Floyd, tu sais, puis Half Moon Run, Ouais.
Est-ce que... OK. Puis toi, tu écoutes encore ça à ce jour?
À côté.
Si
tu peux surprendre.
Je pensais que tu étais plus le style Justin Bieber.
Zéro Pinbert. Tu me connais mal.
Hey, peux-tu me faire 2-3 minutes de nouvelles? Là,
je vais aller en manchette.
Absolument savoir, oui.
Oui, je vais en manchette. Le salut nazi, là. Le maire Marchand s'est excusé auprès de la citoyenne visée, vous savez, le branle-bas de combat. Il y a une citoyenne qui est allée au conseil de ville poser une question. Finalement, elle aurait fait un signe avec son bras pour imiter Pierre-Luc Lachance, qui était très agressif quelques minutes auparavant. Et là, ça a été interprété par le maire Marchand comme étant un signe nazi. Il n'a pas voulu s'excuser hier. Maintenant, ce matin, il s'est excusé des conséquences de son geste et pas nécessairement de l'acte de, comment dire, tasser de côté, discriminer la citoyenne en question. Pierre-Luc Lachance ne va pas se représenter aux prochaines élections. En fait, c'est le bras droit du maire. Il va rester en place jusqu'à la fin de son mandat, mais il ne se représente pas. Et je termine avec un dossier de violence conjugale. Il y a un suspect en cavale qui a été arrêté en Ontario. C'est 6 mois plus tard, mais c'est toujours grâce au travail du service de police de la ville de Québec qu'on a réussi à arrêter Jimmy Leboutier-Jobin. Il était rendu à Thunder Bay, lui, et il y avait un mandat d'arrestation qui avait été lancé le 24 juillet dernier pour des bris de probation, entre autres commis dans un contexte conjugal. La bonne nouvelle, c'est que l'homme de 34 ans y est détenu. Il va comparaître à Toronto.
Mon prochain invité, j'adore lui jaser. C'est un docteur en psychologie, recherche et clinique. Hier, on était plusieurs milliers de personnes sur son live. Il fait des lives régulièrement sur la psychologie. C'était autour de 20h. Puis il parlait de comment lire une personne. Nous autres, hier, on voulait lui parler qu'il nous parle de gens qui ont des côtés sombres. Est-ce qu'on en a tous un côté sombre? Puis j'ai le plaisir de le recevoir avec nous. C'est Guillaume Dulude. Comment vas-tu, Guillaume?
Ça va très bien. Merci de l'invitation. Allô, vous deux.
Ouais. Salut. Je pensais que tu étais plus bronzé que ça, là, parce que tu restes plus au Québec. Là. Je me suis dit, il va être encore bronzé, il va nous énerver avec son bronzage, mais tu dois travailler beaucoup.
Oui, je travaille beaucoup, mais là, je suis pas en Afrique du Sud. C'est quand je suis en Afrique du Sud là, que je suis plus bronzé, parce que là, je suis plus dehors. Là, je suis revenu au Panama chez moi, donc là, je suis plus à l'intérieur devant mon ordinateur. Fait que j'ai le même ton que toi.
Ça ressemble à ouais, ça ressemble à quoi, le climat où tu es, au Panama?
C'est très stable, je dirais 28-29 degrés l'année longue, hyper stable. C'est juste que tu as une saison pluie, une saison sèche, c'est la seule différence. Des fois, c'est humide, des fois, là, c'est sec.
Ouais. Hier, on était plusieurs milliers de personnes sur ton live, tu devais être content. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, comment lire les gens autour de nous. J'ai appris plein de choses. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu le concept, là, justement, comment faire la lecture des gens qui nous entourent, de nos collègues, de nos amis, de nos enfants, de nos voisins.
Ben, le défi là-dedans, c'est de lire une personne pour vrai, c'est-à-dire pas pour se donner le sentiment de détecter des choses magiques dans l'autre, puis se donner un feeling de lecture. Hein, parce que c'est très psychopop, hein, lire une personne, puis il y a plein de fausses croyances qui sont mises là-dedans. Tu peux le faire de façon scientifique. Je dirais que la façon que je propose, c'est que tu y vas par mécanisme. Hier, ce qu'on a vu, par exemple, c'était une première couche. On a mis l'accent sur l'anxiété. L'anxiété, ouais. Qu'est-ce que ça fait? Puis après ça, à quoi ça sert l'anxiété? Puis comment on est capable de l'observer chez une personne, l'anxiété? Et là, après ça, tu es capable, quand tu as une base théorique solide, de dire, OK, ça serait quoi des petites manifestations de l'anxiété? Et là, on s'embarque dans toutes sortes de micro-comportements, de petits comportements reliés aux narines, reliés aux contractions musculaires, à la respiration, à la posture, les micro-mouvements, micro-mouvements des yeux. Et quand tu apprends ça, là, tu te dis « Ah oui, il me semble que je le ressentais. Il me semble que je sentais que la personne était anxieuse, mais je ne pouvais pas mettre des mots dessus. Ouais. » Ben, souvent, c'est ça que je vais faire. Je vais juste mettre des mots rationnels, une grille d'analyse qui est plus rationnelle sur un ressenti intuitif que les gens ont. Puis là, ça fait « Ah, OK, voici pourquoi. » Puis là, c'est pas dans ma tête. Donc, Oui, puis maintenant que tu le vois, tu peux en tenir compte dans ta conversation avec la personne pour qu'elle aille mieux, pour savoir de quoi faudrait vraiment parler, où faudrait aller ensemble. Donc, ça sert à créer des relations.
Guillaume Dulude, est-ce que l'anxiété, c'est le cancer des années 2000? Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui sont trop prises avec l'anxiété. Pour avoir déjà eu quelqu'un dans ma vie qui faisait de l'anxiété généralisée, ça semblait être un cauchemar juste de se lever le matin puis essayer de passer sa journée. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en a de plus en plus? Dans les années, on est à peu près à la même âge, Guillaume, dans les années 80-90, on parlait à peine de l'anxiété, là.
Ouais. Ben, y a deux choses. La première chose, c'est que c'est sûr que c'est devenu de moins en moins tabou de parler de santé mentale, de comment on sait, de comment on se sent. Puis ça, c'est une chose. Donc, ça peut créer l'illusion que ça a quadruplé, mais que dans le fond, c'est juste qu'on en parle 4 fois plus. Donc, ça, c'est un effet qui joue, mais je pense pas que ça joue pour l'effet principal. L'effet principal est que je pense qu'on est réellement plus anxieux et l'anxiété est directement reliée à la dépression. Donc, avant d'être en dépression, tu vas passer par de l'anxiété. Puis quand ton système anxieux a plus d'énergie, pour être anxieux, il va tomber dans un autre système qui est un système dépressif. Donc, l'anxiété et la dépression, c'est deux amis. Donc, on est dans une ère où il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression. Maintenant, la raison pourquoi? Plusieurs facteurs à ça. Dégradation des valeurs familiales, des structures familiales, des structures parentales. On est de plus en plus dans un monde qui est virtuel. Dans un monde qui est virtuel, tu n'as jamais de pogne là-dessus. Ça n'existe pas. Puis même les micro-pognes que tu as, c'est des pognes volatile qui bouge. Donc, le monde virtuel est littéralement là une des recettes pour de l'anxiété. Les humains, ça prend des balises qui sont claires auxquelles ils peuvent se référer, se fier. Sinon, ils peuvent pas se construire. Mais là, dans une ère virtuelle, tes bases, c'est comme un peu des bases de sable mouvant. Fait que tu peux jamais te construire. Tu peux tout le temps rechercher le prochain renforcement en ligne. Donc, le mouvement en ligne a définitivement, parce que c'est même pas, c'est sans aucun doute, une augmentation là, de l'anxiété, beaucoup. Et les gens, ils savent pas comment créer des relations à long terme maintenant, et l'anxiété augmente l'anxiété, parce que plus tu es anxieux, plus tu évites l'anxiété. Et hier, on a vu, comme par exemple, les situations sociales, les gens sont de plus en plus anxieux socialement. De plus en plus, les gens ont abandonné l'idée des relations à long terme à cause de toutes sortes de contexte technologique, mais aussi d'activisme. C'est-à-dire, oui, mais le modèle traditionnel fonctionne pas. Fait que là, on croit à ça, c'est vrai, ça fonctionne pas. Donc, on refuse de mettre les efforts qu'il faut et d'avoir les bons outils pour construire des relations à long terme. Et ça, c'est, selon moi, ce que j'appellerais l'ère de la solitude. Un humain seul, confronté aux médias sociaux, au monde virtuel, c'est une recette du trou noir. Le
Puis
trou noir,
l'anxiété, Guillaume, parce que vite de même dans la société, on se dit, ah, c'est quelqu'un qui est stressé, qui est anxieux. Bon, le stress, l'anxiété, on pourrait définir quand même des différences, mais par la dépression que t'amènes, on vient d'avoir quelqu'un en onde par rapport à la prévention du suicide. C'est fascinant ce que ça peut faire chez une personne, à moins que je me trompe, là, mais dans les comportements, ça peut devenir une toute autre personne, même que tu peux ne pas reconnaître quelqu'un qui t'a côtoyé pendant plusieurs années à un point où les comportements même deviennent ben, très, 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 très déplorables.
tu parles lorsque l'anxiété envahit une personne?
Ah ouais, avec la dépression, tu sais,
Ah.
c'est fascinant comment ça a des impacts profonds puis sur le
Oui.
comportemental, là.
Oui. Quand un humain souffre et a de la difficulté à même passer à travers 1 heure, 2 heures, 3 heures de sa journée, tu as juste accès à une partie d'elle-même, qui est une partie souffrante, qui n'est pas la partie qui veut quelque chose. Les humains rayonnent quand ils veulent des choses, quand ils font des plans, puis ils poursuivent des objectifs. Sont enthousiastes à propos de leur but, des stratégies qu'ils vont mettre en place, puis à qui ils vont parler de ça. Donc, des humains qui cherchent, c'est des humains qui sont en santé. Des humains qui ont abandonné l'idée d'avoir des buts et qui cherchent plus à part ressentir un bien-être, ça, c'est la pente descendante. Et plus tu recherches une sensation, plus tu vas devenir immobile et tu n'as plus accès à toi. Donc, toute la personnalité s'écrase. Tu vois plus les choses que tu reconnais d'une personne. Tu te reconnais plus toi-même. Quand tu es dans cet état-là, tu dis, c'est pas moi, ça. Puis ça, c'est une des premières affaires que les gens vont dire. Je me reconnais pas, c'est pas moi, je peux pas croire que je suis devenu ça. Mais c'est comme, c'est pas toi à 100%, mais c'est une partie de toi qui va paraître quand tu soustrais les autres plus en santé qui étaient tes locomotives. Fait que c'est sûr, quand ta locomotive s'en va, c'est comme il reste juste des wagons qui bougent pas vraiment autour. Là. Fait que là, tu dis, mais c'est juste moi ce wagon-là qui est tout en train de pourrir puis qu'il n'y a plus de locomotive. Non, mais justement, il faut reparler de locomotive. Puis c'est pour ça que parler de bien-être, c'est très dangereux parce qu'on est dans une mode de sensation, de plaisir, de bien-être, de soigner les bobos, de reconnaître tous les traumas. Puis on peut jouer à ça, OK, mais tant et aussi longtemps qu'on parle de locomotive, tu ne peux pas juste me parler de ça. C'est impossible. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, plus on parle de bien-être, plus on parle de sécurité, on est dans une ère d'hypersécurité émotionnelle, c'est la pire stratégie parce qu'un humain, si tu veux sa sécurité émotionnelle, il faut que tu le gardes en mouvement. Fait que c'est correct de parler de ça, mais là, on est envahi là, d'une période d'hypersécurité.
Ouais.
Donc, tu ne pourras pas te reconnaître.
Guillaume Dulude, avec Psycom, tu te promènes partout à travers le monde. Tu vas à un endroit que j'adore, c'est le continent africain. J'ai l'impression qu'un jour, je vais y aller et je vais me mettre ça comme objectif dans les prochaines années. Est-ce que sur le continent, là-bas, est-ce que l'anxiété est aussi vivante qu'elle peut être vivante ici, là, en Occident?
Les études sont moins claires, premièrement, parce que c'est moins documenté en Afrique. Okay?
Ouais.
Les populations sont moins documentées. Par contre, c'est sûr que pour avoir passé 20 ans là, je peux vous dire que on a fait un choix. C'est-à-dire, on a priorisé la sécurité physique, puis on est blindé là-dedans avec plein de ressources externes puis de technologies. Mais pour aller dans ce genre de confort-là, il faut que tu sois hyper dur et discipliné sur le plan psychologique, ce qu'on n'est pas. Fait qu'on essaie de padder le corps comme on veut padder la tête d'une personne. Puis ça, ça ne fait pas bon ménage. Tandis que d'autres pays qui sont moins développés sont beaucoup moins en sécurité physiquement. Par contre, ils ont des buts hyper clairs parce que la survie le dit. Il faut que tu fasses ça aujourd'hui. Il faut que tu ailles ça aujourd'hui. Il faut que tu réussisses à faire ça. Sinon, tu n'auras pas ton confort physique. Donc, la tête cherche des choses. Et c'est des gens qui sont très courageux, très en mouvement. Donc, on voit moins de l'anxiété puis de dépression. Évidemment, la souffrance existe. Puis le but, c'est pas de comparer les types de souffrance. Mais si on parle, est-ce que les gens sont plus anxieux, moins anxieux? L'anxiété, c'est un luxe de pays hyper confortable. Quand t'es pas confortable, t'es pas anxieux. L'anxiété, c'est un monde virtuel où tu veux anticiper le futur. Mais pour anticiper le futur, faut vraiment que t'aies du temps entre les mains maintenant. Quand t'as pas de temps maintenant parce que t'es occupé maintenant avec des tâches claires, t'as pas le temps d'être anxieux. Donc, non.
Guillaume, on se posait la question à savoir si tous les gens qui nous entouraient, sauf nous, là, avaient
non.
des côtés sombres.
Non! Est-ce l'individu en soi, peu importe lequel.
Est-ce qu'on a tous des côtés sombres? Puis c'est quoi? Comment on peut déterminer ce côté sombre-là?
Ben, c'est une bonne question. Je pensais à ça parce qu'hier, tu m'as texté, tu disais, hey, j'aimerais ça qu'on parle de côté sombre. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien dire là-dessus? Parce que il y a comme... Pour le mot ou l'expression côté sombre vient d'une certaine branche de la psychologie qui est très psychodynamique, qui est très psychanalytique, qui est très, c'est dans le non-conscient, c'est dans les traumas, c'est ouais. dans les désirs inavoués, c'est dans, OK. D'autres branches en psychologie vont pas dire ça. Maintenant, tu me poses la question à moi, Guillaume Dulude. Oui, il y a des côtés sombres. Voici mon explication à moi. C'est-à-dire que, depuis qu'on est, il y a des pulsions, il y a des désirs, il y a des idées qu'on peut juste pas vivre dans la réalité. On peut pas traduire ça en comportement parce que socialement, ce n'est pas possible dans l'équilibre social qu'on a. Donc, il y a un paquet de choses qu'on veut faire, qu'on veut pas faire, qu'on veut changer, qu'on veut détruire, qu'on veut assouvir, qu'on doit gérer ça et on ne peut pas laisser ça aller parce que ça va causer des conflits sociaux et tu vas perdre ta place hiérarchique dans un système social, ce qui va causer ta mort. Donc, pour survivre, tu dois réprimer ça. Tu dois les garder secrets en dedans, secrets à l'intérieur de toi pour que tu puisses amener une façade qui est suffisamment acceptable et tolérable. Évidemment, tu vas amener la façade de toi la plus authentique possible, mais tout en préservant ton autorité hiérarchique. Parce que si tu veux être trop toi-même, ben là, le système risque de te rebeller, puis tu vas rentrer en conflit avec l'environnement, puis j'ai un peu de difficulté avec ça moi-même, mais il faut que tu réussisses à doser ce que tu dis, ce que tu fais pour pour ne pas rentrer en conflit avec l'environnement sans arrêt. Donc, c'est comme une fine ligne. Mais si on extrapole cette ligne-là, c'est-à-dire si on dit qu'il n'y a pas de ligne, tu peux vraiment faire dire, vouloir, laisser aller toutes ces impulsions-là, ben, une grande partie de ceux-là vont faire un dommage. C'est ce qu'on appelle le côté sombre, c'est-à-dire les choses que je dois gérer à l'intérieur de moi.
Ça, c'est fascinant parce que moi, en tout cas, c'est ça. Si je t'écoute, tout le monde en a un, mais on se limite aux normes sociales. Cependant, il y en a un dans l'actualité en ce moment qui teste la vie, qui teste le social et qui l'affirme haut et fort et qui en fait un jeu, et c'est Elon Musk aux États-Unis. Je te voyais hocher de la tête, tu savais où je m'en allais. Ça, c'est fascinant. Est-ce que c'est parce que côté hiérarchique, il a atteint le sommet financièrement en termes de puissance monétaire et il se dit « moi, j'ai plus rien à perdre, je peux faire ce que je veux avec cette société-là ou je peux la pousser à aller plus loin ».
Ben, bon, tout est un calcul de gains et pertes. Puis tu l'as bien nommé, quand tu es rendu à un certain statut hiérarchique, tu sais que ça va être très difficile pour toi d'être détrôné. Donc, ça veut dire que ton cerveau, il veut aller au prochain jeu auquel tu peux te permettre sans conséquence. Tous les humains sont comme ça. C'est pour ça que tout le monde veut hisser en haute hiérarchie parce que, un, il y a plus de ressources spécifiques pour toi, mais aussi tu as plus de possibilités pour exprimer des choses plus rares et spécifiques à toi, sans grande perte. Évidemment, il faut que tu aies une position vraiment de luxe parce qu'on a toujours quelque chose à perdre. Même Elon Musk a toujours quelque chose à perdre. Mais c'est sûr que si tu peux, tu as une armée de sécurité autour de toi, tu peux pousser le bouchon plus loin. Par contre, moi, je pense que Elon Musk, c'est une personnalité particulière, Elon Musk. Tu sais, comparativement à Trump joue beaucoup plus ce jeu-là, de se laisser aller jusqu'où je peux aller sans que ça casse.
Ouais, il se nourrit de ça.
Il est beaucoup plus joueur là-dessus. Ouais. Il adore ce jeu-là. Il y a très peu d'anxiété et il y a beaucoup de plaisir. Donc, c'est un gars qui joue. Moi, mon opinion, c'est que c'est plus ça qu'un evil, un diable. C'est un gars qui joue, puis il aime pousser le bouchon, il est pas facile à stresser. Elon, il est moins comme ça. Elon, il aimerait comme ça. Ça, c'est mon analyse, là, tu sais, vraiment rapide, mais il aimerait ça être dans la cour des grands. Puis moi, je pense que Elon Musk, il est comme nouveau dans la cour des grands, puis il a toujours été un petit peu tout seul avec ses petits Legos. Puis là, il joue à un jeu social qui est
Lui, c'est une simulation. Il dit la vie, c'est une simulation. Donc, je veux voir jusqu'où je suis capable d'aller dans cette simulation-là. C'est fascinant. On n'entend pas ça souvent. Là.
Oui.
Affirmé, du moins. Là.
Ben, c'est une pensée d'ingénieur. C'est parce que tout le monde a ça. Tout le monde pense jusqu'où je peux aller. Mais on ne dit pas ça normalement. Puis lui, il pense comme ça sur le plan technologique essentiellement. Mais là, il a sauté dans l'arène politique.
Exact. Et humaine, là, oui.
Fait que là, si tu veux jouer à ça, jusqu'où on peut aller côté humanité, si tu prends sa pensée ingénieur jusqu'où on peut aller, puis tu t'en vas dire un discours comme ça avec les humains, ben là, les humains vont se rebeller un petit peu. Là, ça n'aura pas la même conséquence que juste...
Mais c'est parce que le côté émotif n'est pas super développé par son PSA, là, ouais. C'est presque dangereux. Puis tu sais, je regarde Trump qui est très joueur, peu d'empathie et autres. Comment est-ce qu'on peut tester cette simulation-là, si on l'appelle une simulation, la vie, mais en se mettant des barèmes humains et en étant capable de s'arrêter, d'avoir une cognition qui fait en sorte que, oh, ben là, attends un peu, là, j'ai quand même le rapport humain, le rapport social, j'ai pas envie d'être complètement bloqué. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Ça doit différencier quand même deux humains et deux façons de faire. Là.
Ta question, c'est comment assouvir des choses qu'on a en dedans sans briser l'ordre social autour de soi? Est-ce que c'est ça?
Très bien résumé.
OK. Pour pas Elon Musk et Donald Trump, tout le monde. C'est ça que tu veux savoir?
Oui, mais les deux qui poussent le bouchon, je trouve qu'on les nomme.
Parce que ils ne représentent pas la majorité de la population parce qu'on a des positions tellement extrêmes que c'est très dur à s'identifier à ça. Tu sais, c'est comme un autre monde. C'est vraiment, vraiment un autre monde. Puis moi, je pense qu'il faut être prudent sur la comparaison à différentes strates de pouvoir. Parce qu'à un moment donné, c'est comme tu changes de dimension à un moment donné. Puis c'est comme, ouais, l'empathie, puis tout ça, oui. Mais c'est vraiment une autre planète. Puis je sais que, tu sais, dans les journaux, on y va allègrement sur des critiques, tout ça, mais C'est juste que moi, je me garde une petite gêne parce que c'est tellement une autre planète que c'est très difficile de voir les règles qui sous-tendent ça et aussi les angles morts que nous, on ne peut pas voir à notre niveau hiérarchique. Il y a des enjeux qui nous échappent complètement. Il y a des enjeux qui nous concernent, mais des enjeux qu'on ne peut pas voir. Donc, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Parce qu'on ne peut pas se mettre dans la peau de ces hommes-là, savoir si on agirait de la même manière parce qu'on
on n'est
c'est
pas
trop
dedans.
loin de nous.
Exact.
Moi, je pense qu'il faut être prudent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rien dire? Non, parce qu'ils ont un rôle directement sur nous. Donc,
On
ça ne veut
peut
pas dire que...
analyser et choisir si ce genre de personnes-là qu'on souhaite avoir au pouvoir.
Oui, c'est sûr. Je dis c'est sûr, c'est absolument. Je veux dire, on est dans une grosse équipe, qu'on le veuille ou pas. Donc, ce que les gens font à la tête, ça nous concerne. Donc, il faut dire quelque chose. Tout en étant conscient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir complètement. On peut pas le savoir à ce niveau-là. Maintenant, à notre niveau, ben, le jeu est le même. C'est-à-dire, comment on fait pour être le plus soi-même possible et négocier ce qu'on veut et qui on est avec nos relations et les gens autour de nous. Mais je pense que là, dans ce qui est plus à notre portée, c'est de dire, ben, il faut négocier un peu plus, il faut plus de communication pour dire, voici qui je suis, voici ce que j'aurais le goût de faire, voici quel sens ça a pour moi, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que je puisse aller là-dedans, exprimer ça, puis que ça soit pas mal interprété, qu'on puisse trouver des objectifs communs là-dedans. Donc, moi, je suis plus proche de la négociation dans le quotidien sur, hey, il y a ça en dedans de moi que j'aimerais faire, qu'est-ce qu'on peut faire, plutôt qu'imposer sa volonté aux autres. Puis ce qui est plus ce qu'on voit en ce moment. Donc, je dirais plus conserver les relations, puis essayer de se parler de ce qu'on veut vraiment
Ouais.
vivre ensemble, puis trouver la façon de le vivre.
Exact.
Ça sera pas parfait, mais c'est mieux que rien.
Guillaume Duluth, docteur en psychologie, recherche et clinique. Bon, t'as loué le Centre Bell, là, ça a bien été. Nous autres, on a un centre Vidéotron à louer, là, si ça te tente, venir faire un tour une fois de temps en temps à Québec, ce serait le fun de t'accueillir. Je pense que tu pourrais le remplir comme tu l'as fait à Montréal. C'est toujours un plaisir de te jaser en passant. On peut te suivre sur les réseaux sociaux?
Ben oui, absolument. Puis Guillaume Duluth Psycom, puis merci beaucoup de votre entrevue. C'est toujours apprécié. Merci de votre ouverture d'esprit.
Ben
Je
oui.
l'apprécie.
Mais là, le
Merci,
centre
Guillaume.
Vidéotron, c'est pour quand, là? On attend,
J'avoue que ça va me prendre un petit bout, là, peut-être refaire un événement en live au Québec, là,
Ouais.
s'attirer du jus, le Centre Bell. Beaucoup de choses à l'arrière-scène que je dévoile pas, mais je peux vous garantir que c'est. Faire un événement au Québec puis avoir de l'appui médiatique
Ouais.
pour remplir ça, on n'est pas là 10 ans, là. Et c'est ça. Il y a des gens qui ne trippent pas sur ce que je fais, puis faut que tu t'arranges pas mal tout seul, là.
Ouais. Mais tu as énormément de gens qui trippent sur ce que tu fais, puis
Aussi, aussi.
c'est ta base, puis on t'apprécie. Fait qu'on aura l'occasion de s'en
Absolument.
jaser. Guillaume Dulune, merci.
Absolument. Merci à vous deux.
Salut.
Bye-bye.
Bye-bye. 11h20, on va faire une courte pause et on vient tout de suite. On n'a toujours pas découvert c'était quoi le côté sombre de Pascal. Peut-être qui sait un jour, nous le saurons. Est-ce que tu as une collection de pieds, là, de photographies de pieds?
Non!
Non.
Voyons! Ça, c'est les gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui aiment les
Ouais.
pieds.
Mais admettons que les gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ouais, ils aiment les pieds.
Ah, oh, ouais.
Ouais, ça. Ouais. On a conclu ça, mes amis et
Okay.
moi.
Mais admettons que tu arrives chez ton nouvel ami, là, ton
Ouais.
nouvel ami moderne, avec lequel tu crois peut-être finir tes jours, puis tu découvres un album où il y a juste des pieds de filles. Tu fais quoi?
Ben, je quitte. C'est bizarre.
Tu
Mais
quittes!
j'aurais une petite discussion avant.
Oui.
Mais après.
OK, mais
Ça
qu'est-ce
me
que tu veux?
restera en tête, tu sais.
Une discussion? C'est quoi ça, genre?
Ben oui, puis après ça, t'attends.
Il va te dire c'est des pieds de filles?
Ben là, s'il est con, il va répondre des pieds de fille. S'il tient à quelque chose, il va
Non, je te
continuer.
conseille de foutre le camp si tu tombes sur un album
De
de pieds de
pied.
femmes. Et encore pire, pieds d'hommes, là, sauvez-vous très loin. À Oualéor, au Carnaval de Québec, c'est en collaboration avec l'Auto-Québec. C'est 6 soirées sur la scène de l'Auto-Québec, sous le dôme avec l'humoriste Mariana Mazza. Ses invités seront là. Il va avoir des tunes et bien des plaisanteries. Soulja, Sarah Dufour, Abstract, Karma Chameleons, quel beau band, ce band-là, Karma Chameleons, j'adore. Et bien d'autres qui seront présents. Puis le 12 février, ben là, c'est notre soirée. Soirée Leclerc Communication. C'est la belle gang de Weekend 91.9 qui seront là. Ça s'appelle la soirée Zone New Country. Donc, avec notre station sœur, là, il va y avoir tout le monde, je pense, que de Leclerc Communication pour voir Audrey danser le Achy Breaky Dance. Tout ça et une panoplie
Hey.
d'autres activités qui t'attendent du 7 au 16 février au Carnaval de Québec.
Sont-ils venus te recruter pour ça?
L'effigie, c'est 40$. Donc, 39 précisément, c'est plus marketing. Donc, 39$ que tu peux acheter dans les couches-tard pour ce qui est de l'effigie du Carnaval de Québec ou encore carnaval.qc.ca. Si j'ai été recruté, moi, j'étais un tapeux de pied au bord. Fait que s'il y a quelqu'un qui cherche un tapeau de pied au bord, je suis là. Mais pour le reste, les danses en ligne, c'est pas mon bag, comme disait l'autre. Ça te surprend?
Non.
Non, hein?
C'est parce qu'il faisait le tour d'un corridor pour recruter le monde pour ça.
C'est vrai? Mais pourquoi ils me l'ont pas demandé?
Ben, peut-être parce qu'ils savaient que ça allait être non.
Ouais. Mais t'es-tu synchro, toi, avec les autres quand tu fais ça?
Non, moi, je fais pas ça.
Non.
Non, 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 je fais pas ça. C'est la seule danse que je fais pas. Ah,
Audrey, elle aurait aimé ça être avec toi ce soir-là. Qui sait? Gasoline, l'amour véritable est aux rebelles sur les ondes de Boulevard.